9h20, c'est Jocelyne Robert est avec nous pour nous parler de son livre « Parlez-leur d'amour et de sexualité, l'éducation sexuelle s'apprête ». Madame Robert, bonjour.
Allô, allô.
Avant de parler du livre et des thèmes,
oui.
Nous sommes dans un contexte où le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation, a réintroduit, d'abord par des projets pilotes, les cours d'éducation sexuelle.
Oui.
Un, on va convenir qu'il était à peu près temps que ça se fasse, là.
Tout à fait.
Mais l'expérience...
Et ça m'a, moi, ça m'a réjoui beaucoup, là, qu'on décide que ça se fasse.
Mais là, on le fait, c'est pas beaucoup d'heures. Je comprends que ça varie selon les âges et tout ça. Ça s'est intégré dans d'autres cours. Comment vous trouvez cette approche-là?
Ben, je la trouve très, très, très timide, très, très, très... je trouve qu'elle prend beaucoup de précautions, mais en même temps, je peux le comprendre parce que je pense que c'est pas organisé pour dans l'ensemble. Moi, j'ai parlé avec des syndicats d'enseignants. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns de commissions scolaires qui se disent prêtes, mais dans l'ensemble, elles ne se sentent pas prêtes. Et c'est comme si elles se retrouvaient avec une patate chaude dans les mains. Certains disent on est prêts, on a eu de la formation. Je sais pas ce que c'est la formation. Je mets pas en doute leur parole. Peut-être que ce fut très efficace. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien disposés à faire ça, qui ont de l'aplomb, qui sont à l'aise avec ça, puis qu'avec un peu de formation, ils se sentent capables de le faire. Mais de façon générale, ça n'est pas ça. De façon générale, les enseignants ne se sentent pas prêts à faire ça. Et ils ne le sont pas. Alors, c'est sûr que je suis ravie qu'on ait décidé de ramener nommément, hein, obligatoire, à l'école, un programme d'éducation à la sexualité. Mais ce que je crains, c'est que pour l'opérationnaliser, pour qu'il devienne efficace, on rate notre coup encore une fois. Et là, il faudrait pas, parce que c'est vraiment important. De bien faire de l'éducation à la sexualité, de bien rivaliser avec tous les messages ambiants. Je vous donne un exemple, puis je dis pas, j'accuse pas personne, je pense pas que personne est de mauvaise foi. Je vous donne un exemple d'une jeune femme qui me disait que dans un cours de sexualité, d'éducation à la sexualité, quand il y avait été question d'inceste, le monsieur, qui était, je pense, un prof de bio, qui donnait la sexualité, sur une question de l'inceste d'un jeune, il avait été tellement mal à l'aise qu'il avait dit quelque chose comme, bon, ben, par exemple, si ton père te chatouille, là, c'est de l'inceste. Et elle, la femme qui me contait ça, me dit, mais moi, mon père, il me chatouillait tout le temps quand on chamaillait. Puis la fois suivante qui m'a chatouillée, puis elle se rappelait de ça comme un événement marquant. Là. La fois suivante qui m'a chatouillée, derrière les genoux, il a chatouillé toujours derrière les genoux, elle a hurlé. Arrête, espèce d'incestueux. Alors, c'est rien puis c'est beaucoup en même temps. Comment, je raconte cette histoire-là pour illustrer combien on peut, sans des affaires très, très graves, faire du tort, fausser la perception. Je pourrais vous en raconter, là, tu sais, quelqu'un qui dit sur la planche anatomique, le clitoris, ça sert à rien. Ben, le clitoris, c'est vrai que ça sert à rien sur le plan de la fécondation. Tu sais, quand t'es dans la biologie, tu parles d'affaires comme ça.
Mais
ça sert à quelque chose sur le plan du plaisir.
Mais là, si les profs, pas tous, là, sont pas
bien formés.
Est-ce qu'on va causer plus de tort que d'avantage?
Peut-être pas de façon générale, mais ça peut arriver.
Ça peut marquer des élèves.
Bien sûr, mais ça ne peut pas faire autrement. Monsieur Arcan, j'allais dire, vous sauriez, là, Mme Robert, avec votre comparaison, mais, tu sais, moi, je suis sexologue, j'ai étudié aussi en philosophie, je suis sexologue. Donc, en étant sexologue, je connais le corps féminin, je connais la physiologie, l'anatomie, la génitalité des femmes. Je peux pas m'improviser demain gynécologue pour autant. Et Dieu sait que c'est un aspect que je connais très bien. Vous allez dire, vous charriez, là, vous êtes pas médecin. Mais c'est pour montrer que on traite l'éducation, la pédagogie de l'éducation à la sexualité comme quelque chose de seconde zone, comme si on pouvait à peu près n'importe qui s'improviser. Combien de fois je me suis fait faire le reproche, là, récemment, sur les médias sociaux, par exemple, de dire, ben voyons, la sexualité, quelqu'un peut enseigner ça, c'est même le rôle du parent, quelqu'un... Mais il y a la sexualité et il y a la pédagogie de l'éducation à la sexualité. Comment on fait ça? comment on réagit. Hein, y a, mm-hmm. C'est ça qui peut faire beaucoup, beaucoup de tort. Puis être à l'aise aujourd'hui là, avec les réalités qu'on vit, l'hypersexualisation, la pornographie, la violence sexuelle... ça prend tout un discernement pour approcher ces choses-là.
Bon, votre livre, on connaissait la base. Oui. Vous avez ajouté, évidemment, compte tenu des phénomènes que vous venez de décrire,
absolument.
Plusieurs chapitres. La première question que j'ai envie de vous poser...
Allez-y.
Un ado aujourd'hui, là, il est confronté à un paquet de réalités qui n'existaient pas il y a 15 ans. Que Absolument. Ce soit la façon de se comporter, là je vais prendre plusieurs exemples, la façon de se comporter avec les filles, les différentes orientations sexuelles, évidemment...
Les multiples identités de genre.
Aussi. Ensuite, évidemment, les médias sociaux. Moi, ça me fascine, moi je suis un vieux, là, mais de voir que des filles, principalement, acceptent de prendre des photos nues, pour un copain, puis de ne pas réaliser que ça peut, évidemment, en cas de rupture, rapidement devenir un outil de chantage.
Dans la pensée magique encore.
Encore, mais c'est ça la réalité, c'est l'espèce de pensée qu'on est...
C'est ça la réalité.
On est en amour, puis on pense que...
Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils sont dans une phase, les ados puis les pré-ados, là, de grande exubérance, de grande effervescence. Ils sont dans la pensée magique. On l'est parfois, nous autres, les adultes, dans le moment présent. Là, tu sais, dans le moment présent, on fly. Puis, bon, ils sont dans la pensée magique et on ne leur apprend pas à développer un regard un peu critique sur ce qui est en train de se vivre au présent. Alors, quand on ne leur apprend pas, personne ne le fait. Les parents ne le font pas. L'école ne le fait pas. Et c'est ça qui est important. Puis, tu sais, vous disiez, c'est une réédition, ce livre-là, mais c'est un livre neuf. J'ai enlevé à peu près 100 pages, j'en ai rajouté à peu près 100. Toute la première partie, au fond, je disais à mon attaché de presse, à mon attachante, je lui disais, la première partie, c'est l'éducation sexuelle des parents, au fond, que je fais. Parce que c'est pour être capable de devenir un médiateur puis un messager avec son enfant puis de créer un dialogue, faut d'abord faire un examen de conscience. Faut d'abord se demander d'où je pars, qu'est-ce que j'ai reçu moi comme éducation à la sexualité, qu'est-ce que je veux transmettre, comment je fais avec ces affaires nouvelles là d'aujourd'hui. Là, moi je comprends rien là-dedans. Combien de parents me disent, Madame Robert, je comprends rien dans les histoires de LGBT+,
XY, KS. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je fais une entrevue avec un père.
Oui.
Le couple a deux jumeaux, deux garçons. Et ils sont...
identiques? Ça, pareil?
Non, je pense pas, non.
Okay.
Ils sont âgés de 5 ans.
Okay.
Et le premier a décidé, qui s'appelait Victor, a décidé qu'il changeait de nom et qu'il était davantage une fille à 5 ans.
Okay.
Et que ça a progressé, veut s'habiller en fille. À l'école, il veut être considéré comme une fille. Là, t'écoutes ça, là, puis tu dis, OK, comme parent, là, mettons que je suis confronté à ça, là, qu'est-ce que je fais avec ça?
Ouais,
temporaire, pas temporaire?
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est une sacrée bonne question. Si vous m'aviez posé cette question-là, et c'est pour vous montrer, en même temps, montrer à vos auditeurs combien les choses ont changé en une vingtaine, trentaine d'années. Si vous m'aviez posé cette question-là, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'aurais dit, bon, on est devant un enfant qui a un trouble de l'identité sexuelle, hein? Une fragilité de l'identité sexuelle. Et il y aurait eu des spécialistes de cette question-là qui l'auraient vu. Parce qu'on appelait ça un trouble. Maintenant, la tendance est de dire il y a diverses identités de genre et laissons... moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec Jules Bureau, qui est décédé maintenant très, très longtemps, qui était un spécialiste des conflits, ce qu'on appelait les conflits d'identité sexuelle. Et lui, je sais que je vais faire dresser les cheveux au monde ce matin, là, lui prétendait, et c'était le grand expert, que si on intervenait auprès des enfants très jeunes, donc comme ça, là, c'est 4, 5 ans, 6 ans, on pouvait les aider. Mais le but, à l'époque, c'était de ramener à une identité sexuelle correspondant au sexe biologique. Alors maintenant, on n'est plus là. Donc la tendance, puis je dis pas que c'est mauvais là, cette nouvelle tendance là de dire bon ce nouveau modèle là qui est de dire laissons les enfants être eux-mêmes, laissons développer des identités de genre féminines même quand on est dans un corps masculin, bon. Mais il faut quand même pas charrier, il faut quand même évaluer l'enfant. s'efforcer de voir si est-ce que c'est une période, est-ce que c'est un épisode, parce que presque tous les enfants de cet âge-là
vont être attirés par des robes, par exemple.
Voilà. Presque tous les enfants de cet âge-là, à un moment donné, surtout s'il y a une naissance autour, vont trouver ça tellement extraordinaire qu'ils vont dire « Oh, moi aussi, j'en veux un enfant. Moi aussi, je vais être une femme. » Puis comme les filles vont dire « Moi aussi, j'en ai un pénis parce que si le petit gars, il a le droit de grimper dans les arbres, puis pas elle, là. Mm-hmm. » Bon. Alors, faut pas non plus... Faut donner du temps un petit peu au temps, là, voir si ça persiste. Questionner. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être une fille? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu dis... Est-ce que, par exemple, l'enfant dit « J'aimerais ça être une fille » ou s'il dit « Je suis une fille ». C'est pas pareil. Tu sais, alors, il faut investiguer davantage. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une espèce de laisser-aller. Puis, il y a aussi, en ce moment, une mode. Moi, je veux bien, je suis d'accord que si on sent mal dans son corps d'homme, qu'on vive dans... Je suis d'accord avec la transsexualité, avec les conversions, quand c'est nécessaire. Mais il faut pas tomber dans l'espèce de délire de la mode, d'une mode. L'autre jour, je rencontrais une jeune femme qui me disait, moi, je suis asexuelle, pas romantique, et bon, elle me nommait... Puis au fond, après coup, ce qu'elle me décrivait, c'est qu'elle n'avait pas de désir sexuel.
Okay.
Comme ça arrive dans la vie à bien des femmes. Des fois, c'est sporadique. Des fois, ça dure plus longtemps. Puis panromantique, ça veut dire quoi, panromantique? Ça veut dire j'ai des relations affectueuses, satisfaisantes avec mes amis garçons et filles. Ben oui, mais...
OK, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de sexe dans ma vie.
Moi, ben, puis j'ai-tu besoin de mettre des étiquettes qui en finissent plus au-dessus de ça? Je trouve ça bizarre qu'en ce moment... On veut tellement être soi-même, on veut tellement se dégager des étiquettes, mais en même temps, il y a une espèce de tendance où on en invente presque pour tout puis pour rien. Là, ça a plus de sens. Là.
Avec le mouvement, moi aussi, le fameux MeToo, les jeunes garçons aujourd'hui qui ont 13, 14, 15 ans, est-ce que vous croyez que, puis là, souhaitons que l'écho fonctionne bien aussi, là,
oui, bien sûr.
Que leur approche avec les filles va être différente, que leur façon de faire... par rapport... Je vous vois hésiter, là.
Ben, j'hésite parce que c'est très récent. Hein. Je pense que si vous me posez la question dans 2-3 ans, je vais vous dire on a observé que. C'est sûr que ça a un impact. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ça va les décourager? Est-ce qu'ils vont se sentir plus inaptes? C'est tout ça que l'éducation sexuelle est censée faire. C'est pas juste apprendre à mettre un condom. C'est apprendre à voir qu'est-ce que c'est un consentement? Qu'est-ce que c'est dire oui? C'est pas parce que la fille, tu as touché au sein il y a 3 semaines puis qu'elle était d'accord que 3 semaines après, tu peux penser que tu peux avoir un rapport sexuel avec elle. Développer une connaissance, une sensibilité, mais ça ne se fait pas nulle part. Puis les parents, c'est pas par manque de volonté qu'ils le font pas. C'est parce qu'ils ils comprennent plus rien. Ça a été tellement vite. Toutes ces réalités-là, là, Monsieur Arcan, la notion de séduction, le MeToo, la multiplication des identités de genre, l'hypersexualisation, une certaine culture du viol, la violence sexuelle, l'omniprésence de la porno, les nouvelles dépendances, le sextage. C'était pas là il y a à peine 15 ans. Fait qu'on est comme... C'est arrivé là à un rythme complètement fou et on n'a pas eu le temps de voir venir. Fait que les parents, ils se disent « Mais moi, je comprends même pas ce qu'ils vivent. Fait comment voulez-vous que je les aide? » C'est pour ça que j'ai décidé de faire un premier chapitre pour les aider, eux. Mais je vais vous raconter, vite, en m'en venant ce matin, j'avais mis un petit mot sur Facebook disant que je m'en venais vous voir et qu'on parlerait de ça. Et tout de suite, j'ai eu un courriel d'une intervenante, je sais pas si elle était psychologue, sexologue ou peu importe. Elle me dit « Ah, ça tombe bien, moi je m'en vais ce matin dans telle commission scolaire aider 2 garçons de 14 ans qui sont dépendants à la pornographie. »
14 ans.
14 ans. Ouais. Ça, c'est des réalités, là. On n'est pas... on n'invente pas, là. C'est pour ça qu'en sous-titre, j'ai dit « ça presse vraiment ». Il y a une concertation dans la société qui est urgente entre l'école, entre la famille. C'est beau, l'école, s'ils sont bien formés. Puis c'est très important que la famille suive ce qui se passe à l'école, sache qu'est-ce qui est donné aux enfants, puis se mettent eux-mêmes à jour sur ces questions-là.
Madame Robert, merci beaucoup d'être venue ce matin. Je rappelle le livre qui est important, « Parlez-leur d'amour et de sexualité. L'éducation sexuelle, ça presse, c'est publié aux éditions de l'Homme. »
Il est beau, hein?
Très beau, comme d'habitude, d'ailleurs.
Ah, mais lui est plus beau.
Je trouvais? Oui. Peut-être, parce qu'il se passe nouveau. 9h41, on fait une pause et on revient après.